Eh bien, bon dimanche à tous, Dieu vous bénisse.
Bonjour.
Ça va bien. C'est très lourd aujourd'hui, hein, vous avez remarqué. Tous les villages sont en fête, là, en ce moment. Il faut vraiment qu'on retienne la pluie. Je ne pense pas qu'elle va tomber. Hein. Il mérite bien d'avoir un peu de bon temps. Il travaille dur, hein, dans les melons et tout ça. On en sait quelque chose, ce soir. Bien, nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse, chapitre 1, verset 16, ce matin. Je commence à lire au verset 16. Il, c'est-à-dire Jésus, tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Un peu plus loin, au verset 20, il nous dit « Quant au mystère des étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » D'accord ? Amen. Alors, des anges, ce sont des esprits, vous êtes d'accord ? Ce sont 7 esprits envoyés aux 7 églises. Ce sont 7 anges envoyés aux 7 églises. Ce sont des étoiles. Ce sont, Jésus est comparé aussi à une étoile, l'étoile brillante du matin. Hein? Vous savez ce que ça donne en vrai, l'étoile brillante du matin, ça se dit Lucifer. Vous savez ça? Hein? Je sais que nous pouvons voir là les 7 pasteurs, c'est-à-dire les 7 envoyés de Dieu aux 7 églises qui existaient bel et bien à l'époque, à Smyrne, à Éphèse, dans toutes ces villes-là. Mais on peut aussi y voir 7 personnes envoyées aux églises, c'est-à-dire les 7 églises étant des temps, des périodes de l'histoire de l'Église. On appelle ça les 7 âges de l'Église. Ça, c'est une idée, une révélation qui a été donnée déjà avant William Branham. Des personnes y avaient pensé, mais William Branham a identifié ces 7 anges. Il a dit qui était qui. Par exemple, le premier ange, c'est l'apôtre Paul qui a donné l'influence jusqu'aux environs 250 après Jésus-Christ. Après, il est venu Irénée. Après, il est venu, etc., etc. On passe par Luther, on passe par Wesley, tous des hommes, des envoyés de Dieu pour des périodes bien spécifiques de l'histoire de l'Église. C'est très vrai, j'y crois. Absolument, j'y crois. Mais je voudrais vous faire une autre lecture de ces textes ce matin, sans rien rajouter aux Écritures, mais simplement une autre vue de la chose pour nous édifier d'une façon personnelle. Les gens, vous et moi, eh bien, nous avons été envoyés dans les églises locales. Donc, nous sommes aussi des anges. Nous sommes envoyés dans l'Église. Et chacun de nous est une unité très complexe. Très complexe. Avec 7 plans de conscience que nous avons à découvrir, si nous ne les avons pas découverts, et que nous avons à travailler pour les amener à la perfection. Déjà, nous sommes parfaits en Jésus-Christ, mais nous avons à travailler avec crainte et tremblement à notre salut, c'est-à-dire travailler ces 7 niveaux de conscience qui nous sommes sur cette terre, de qui nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler ce matin. C'est cet esprit, c'est cet ange, ange signifiant envoyé, et les anges étant des esprits, eh bien, ces esprits, ces étoiles, sont donc dans la main de Dieu, dans sa main droite. Et chaque personne a 7 états de conscience, et chacune de ces personnes nées de nouveau forme l'Église, le corps de Christ. Le corps de Christ est assemblé. Dans la vision que Jean a eue, c'était une vision de l'Église telle qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire une Église communautaire. C'était pas n'y avait pas l'église baptiste, l'église pentecôtiste, l'église catholique, l'église protestante, l'église je ne sais quoi. Il y avait une forme d'église, c'était celle que Jésus avait instituée, c'était une communauté. C'était cela. Et donc, Jésus rajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés, c'est-à-dire qu'il les envoyait dans l'église, c'est-à-dire il les angeait, si vous voulez. Ange veut dire envoyé. Et chacun est plus ou moins conscient de ces sept niveaux qu'il porte en lui-même. Quand on arrive dans l'église de Jésus-Christ, on est content, on est sauvé, alléluia, c'est merveilleux et tout. Puis après, par les ministères, la Bible nous dit qu'on est conduit à la perfection. Quelle perfection? Celle de Jésus-Christ lui-même. Donc nous avons du travail à faire sur ce que nous sommes. Mais il faut en avoir conscience encore. Hein? Beaucoup de gens s'imaginent simplement, voilà, il faut lutter contre le péché. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Et là, il nous dit que chacun de nous, chacune des églises se trouve avec ses membres dans sa main droite. Plus nous prenons conscience que nous sommes dans la main droite de Jésus, plus nous prenons conscience que nous sommes dans sa main active. Tout ça, c'est des symboles. Jésus ne se balade pas avec 5 étoiles dans la main droite et puis de temps en temps, pour se gratter, il pose des étoiles pour se... Faut arrêter ces histoires, ce sont des symboles. Ça veut dire que nous sommes dans sa main droite, c'est-à-dire que nous sommes dans la main de l'action de Dieu. D'accord? En effet, la main droite symbolise toujours l'action. Dieu n'agit qu'avec nous. Vous vous rappelez cette petite histoire que Osborne racontait dans ce village pendant la guerre? Il y avait une statue de Jésus qui a été détruite par un bombardement. Et le lendemain, les fidèles, les gens du village ont cherché tous les morceaux de cette statue et puis ils ont réussi à la reconstituer, à la remastiquer, enfin bon. Par contre, ils n'ont jamais retrouvé les mains. Et c'était une statue bizarre parce qu'elle était comme ça, au milieu de la place, tout y était, mais il n'y avait pas les mains. Et un jour, un artiste est passé là et il a eu une idée. Il a fait une plaque en bronze sur laquelle il avait écrit et il est venu la placer de nuit sous la statue de Jésus. Et sur cette plaque, c'était écrit « Je n'ai d'autres mains que les tiennes ». Ça, je trouve c'est très beau. C'est vrai que Jésus agit par nous. Si nous n'agissons pas, il n'agit pas. Là, il est assis sur son trône, il commande, et c'est à nous d'agir en son nom. C'est à nous de faire les choses. Selon son inspiration, bien sûr, pas n'importe quoi. Et voilà pourquoi nous avons à travailler pour pouvoir apprendre, n'est-ce pas, toutes les choses dont nous avons besoin pour pouvoir faire correctement l'œuvre de Dieu et non pas faire du bricolage. Dieu n'agit avec nous et il n'agit pas dans tous les domaines de la même façon et il n'agit pas au travers des personnes de la même façon. Parce qu'il y a une diversité dans son unité. Et s'il y a une diversité dans son unité, ça veut dire qu'il y a aussi une diversité dans notre unité. Nous sommes un, mais nous sommes divers. Il y a forcément en nous une diversité puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors il faut apprendre à connaître quelle est cette diversité et puis trouver les choses et ne pas mélanger toutes choses. Les émotions avec les sentiments, avec les désirs, avec les... Voyez ? Alors, quels sont ces 7 états de conscience que nous devons développer, sur lesquels nous devons travailler avec crainte et tremblement, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés? 1. Eh bien, il faut prendre conscience de notre corps. Déjà, c'est la première chose. Il faut prendre conscience de notre corps, c'est nécessaire. C'est une étoile dans la main droite de Dieu. Il faut prendre soin. Deuxièmement, notre existence sur Terre. C'est une étoile dans la main de Dieu. Ça paraît tout bête, mais notre existence sur Terre, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment réel. La véritable réalité, c'est que nous sommes en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et ici-bas, il faut que nous ayons conscience de ce que nous sommes, de nos limitations, mais aussi de nos pouvoirs, et puis aussi du fait que n'y a rien qui est éternel sur cette Terre. Troisièmement, notre intelligence est une étoile dans la main de Dieu. Elle a besoin d'être renouvelée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par la vie. Elle a besoin d'être renouveler notre intelligence. Ah, quel travail! Quatrièmement, notre cœur, avec tous les sentiments et toutes ces choses, tout ça c'est aussi dans la main droite de Dieu. Et nous devons consacrer notre cœur à Dieu, lui consacrer nos sentiments, nos émotions, nos pulsions, toutes ces choses-là, notre centre. Cinquièmement, notre âme sauvée est une étoile dans la main droite de Dieu. Notre âme sauvée, c'est une création. Notre âme, c'est quelque chose qui a été créé, comme je vous l'ai souvent dit déjà, Dieu a formé un corps avec de la poussière, il a mis un esprit dedans et c'est devenu une âme, c'est-à-dire un être vivant. Et cet être vivant, c'est ça qui a besoin d'être sauvé. Et ça a été sauvé, Jésus est le sauveur de notre âme, et puis il rachètera notre corps à la fin, parce que pour le moment c'est pas fait encore, vous verrez ça dans Colossiens, si vous lisez la lettre aux Colossiens, je vais même pas vous donner la référence, c'est qu'à chercher, mais notre corps, c'est plutôt romain, notre corps n'a pas encore été racheté. Notre esprit, sixièmement, est une étoile dans la main droite de Dieu. Et septièmement, notre mental inférieur est aussi dans la main droite de Dieu. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Vous avez un mental inférieur, j'ai un mental inférieur, vous avez tous entendu mes prédications sur ce sujet, vous savez de quoi je veux parler. Nous sommes comme ça, mais c'est dans la main droite de Dieu, ça ne lui échappe pas non plus. Et on doit travailler là-dessus, on ne doit pas se débarrasser de notre mental inférieur, mais on doit travailler dessus, le maintenir dans la mort et aussi le maintenir en soumission. Bon, alors nous sommes une unité qui a divers plans dont nous devons avoir conscience pour bien travailler à notre salut avec cette crainte respectueuse de Dieu. On ne peut pas se permettre de vivre comme monsieur et madame tout le monde. Nous sommes sauvés, mais nous avons à travailler à notre salut. Et c'est là une nuance, n'est-ce pas, importante, que peu de chrétiens évangéliques ont comprise, parce que ils se disent, on est sauvé ou on n'est pas sauvé, s'il faut travailler à notre salut, alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous ne travaillez pas correctement votre salut, vous hériterez des niveaux de gloire plus ou moins importants. Je vous ai déjà prêché ça aussi. Il y a trois niveaux. Un niveau comme le soleil, comme la lune, comme les étoiles. À vous de voir, ou alors il y a ceux qui ont tout connu, qui ont tout appris, et qui ont tout rejeté, et qui, eux, seront perdus. C'est les seuls qui seront perdus. Et cette prise de conscience-là, elle nous aide à avoir du respect pour nous-mêmes, et puis aussi pour les autres. Ça, c'est déjà plus difficile, parce qu'on oublie facilement les erreurs qu'on fait, mais plus difficilement les erreurs que les autres font, n'est-ce pas? Mais on doit... Quand on prend conscience de tout ça, eh bien, on se met à respecter aussi bien nous-mêmes que les autres. Vous avez déjà des gens qui ne se respectent pas eux-mêmes, qui n'arrêtent pas de dire « Mais qu'est-ce que je suis bête ? Mais est-ce que je suis stupide ? Mais c'est pas possible ! Mais je ne vaux rien ! Gna 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 !» Ils ne se respectent pas. La Bible dit ailleurs que nous sommes le temple de Dieu. Et c'est vrai, nous sommes le temple de Dieu. Vous êtes un lieu sacré, maintenant. Je me souviens qu'au château, nous avions décidé de construire un temple et nous avions fait la demande à la mairie et nous avons même dû aller plus haut parce que c'est comme si c'était un lieu qui était protégé et nous avons eu les autorisations pour faire ce temple et c'est là que toute la chair et les démons ont commencé à se manifester un petit peu comme à Kirkland ou à Novo et nous avons dû partir. Mais ce temple, nous allons l'avoir. Il nous faut... C'est une vieille idée catholique que, vous voyez, ils ont des églises, ils ont des cathédrales, ils ont des abbatiales, ils ont des abbayes, mais ils n'ont pas de temple. Les protestants, nous, on va au temple. Vous savez ça? Moi, je suis protestant d'origine, mais le dimanche, on allait au temple. Au départ, j'allais à l'église. L'église, c'est nous, et le temple, c'est le lieu où l'église se réunit. Voilà. Les premiers chrétiens se réunissaient où ?
Au temple.
Au temple. Bon. Voilà, donc il nous faut un temple pour les choses sacrées. C'est pas que nous ne sommes pas le temple. Bien sûr que nous sommes le temple, l'habitation de Dieu. Mais je suis désolé, je ne suis pas le temple à moi tout seul. La Bible dit que je suis un membre du corps de Christ. C'est comme par exemple le corps de Christ. Le corps de Christ. Mais regardez, ouvrez les yeux. En ce moment, il y a des gens qui sont en train de travailler à éteindre les incendies dans le sud, un peu plus loin là-bas, dans l'est. Bien, on appelle ça le corps des pompiers. Est-ce que c'est un gros corps comme ça ? Bonjour, je suis le corps du pompier. Non, c'est plein de gens qui forment un corps qui s'appelle le corps des pompiers. Mais ils n'ont pas tous la même fonction, ils n'ont pas tous les mêmes responsabilités, ils n'ont pas tous les mêmes capacités, ils n'utilisent pas tous les mêmes instruments. Il y a une diversité dans le corps. Et moi, je fais partie du corps de Christ, c'est-à-dire j'ai mes responsabilités, j'ai mes capacités, je suis différent de vous. On est tous différents les uns des autres, mais ce n'est pas parce qu'on est différents qu'on ne fait pas partie du corps. L'apôtre Paul avait déjà ce problème avec les chrétiens, qui disaient, oui, voilà, t'es pas du corps parce que t'es qu'un pied. Hein, puis moi, je suis une main, c'est plus important. Ils étaient stupides déjà, il n'y a pas beaucoup de choses. Enfin, si, ça a évolué. Hein, ils sont encore plus stupides aujourd'hui qu'avant. Bon. Nous sommes un lieu sacré et nous ne devons pas oublier cela. Vous êtes le sanctuaire. Vous êtes le sanctuaire. Voilà pourquoi elle va appeler le château le sanctuaire. C'est l'endroit, nous sommes l'endroit dans lequel chante la louange à Dieu. Et quand nous sommes ensemble dans un endroit, c'est le temple, et c'est là qu'on chante les louanges à Dieu, pas seulement par des tralalalalaires, mais par nos actions et nos pensées, etc. Nous sommes faits à l'image de Dieu, qui a sept noms qu'il qualifie. Vous connaissez les sept noms qui qualifient Dieu, hein? Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah... Il y a sept noms qui signifient ce qu'il est et quelles sont ses fonctions. L'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui protège, etc. Il y a sept noms. Un jour, si vous voulez, je vous referai une prédication là-dessus. Ces sept noms de Dieu représentent sa diversité de capacités parfaites. Chacune de ces capacités sont parfaites, mais quand elles sont ensemble, c'est plus parfait que parfait. D'accord ? Les sept noms. Et ce que nous sommes sur terre est à l'image de ce que nous sommes dans la main de Jésus-Christ, dans la main de Dieu. C'est parfait, mais voilà, ça a besoin d'être démontré. Et pour être démontré, il faut en avoir conscience déjà premièrement. Chaque niveau de ce que nous sommes brille comme une étoile. Du moins, ça devrait briller comme une étoile. Dieu a mis en nous le désir de la perfection, la beauté, le désir de la beauté, de la puissance de nos paroles. Moi, je suis toujours frappé quand j'entends les gens prier, quand ils prient, ils disent « Seigneur, je te prie, je te demande de faire ceci, faire cela, au nom de Jésus !» Attends, c'est pas le nom qu'il faut hurler. C'est pas le mot « non », c'est le nom de Jésus. C'est Jésus qui est important, c'est pas le nom de Jésus. Non, c'est au nom de Jésus. Vous voyez la beauté, l'importance de chaque mot. Je vous ai déjà parlé souvent sur ces choses. Excusez-moi, mais... Non. J'ai un peu une nouvelle, mais c'est pas ça. Tant mieux. La beauté aussi de notre maintien physique est spirituel. Dieu nous donne ce désir. Tout à l'heure, on venait sur la route, là, et puis tout à coup, on a croisé un couple, parce qu'à Saint-Pantaléon, par là où nous passons, il y a une fête aujourd'hui. Alors, ils sont tous habillés pour la fête, c'est-à-dire t-shirt, moulant. On en a vu un, mais c'est pas possible. Faut manquer complètement de respect pour soi-même. Il avait un ventre. On aurait dit qu'il attendait les triplés. Et il a mis un t-shirt moulant. Je disais, attends, habille-toi ample. Moi aussi, j'ai un peu de bedaine, mais je m'habille ample, quoi. Se respecter un peu, puis faire un peu de sport, puis faire attention à ce qu'on mange et ce qu'on boit aussi, n'est-ce pas? C'est bien. La beauté de nos actes, la beauté, parce qu'on peut faire les choses comme ça, mais on peut les faire aussi. Vous savez, le geste au buste du semeur, on peut, voilà, il y a toutes sortes de façons de faire les choses. La beauté de notre regard, la beauté de nos pensées, Dieu nous a donné le désir de tout ça, de cultiver de beaux sentiments. Et il a mis en nous la conscience de la beauté de la piété. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, à notre époque, la piété, c'est pas beau du tout. C'est plus beau. Ça a perdu de sa beauté. C'est normal, puisque dans le monde chrétien, c'est un esprit de folie qui souffle en ce moment, et la folie, ça ne va pas avec la beauté. C'est ce qu'on voit dans le monde, que le monde appelle l'évolution, dans les arts. Je suis désolé, c'est pas parce que j'ai 67, bientôt 68 ans, que je suis un vieux ronchon et que je comprends plus rien à rien. Mais c'est pas beau. Point barre. C'est pas beau. C'est rare d'entendre une jolie mélodie. C'est rare. Il y a beaucoup de choses qui sont pas belles. Et ben, dans l'Église de Jésus-Christ, c'est à peu près la même chose. Les gens ont oublié, n'est-ce pas, la beauté de la piété. Maintenant, et je réalisais ça de plus en plus en pensant à ce que nous-mêmes nous faisons. Et comment c'est perçu? Par exemple, en Afrique. En Afrique, nous avons donné des milliers et des milliers d'euros l'année passée pour aider des gens et tout ça. C'est pas ça, la piété. La piété, on dirait, dans le monde chrétien, que c'est devenu simplement l'agitation sociale. Non, je suis désolé. Alors, l'Église n'est pas un truc social, l'Église n'est pas un hôpital psychiatrique, on a eu des gens qui ont voulu venir ici vivre avec nous, mais c'était pas avec nous, il fallait qu'ils aillent. C'est un hôpital psychiatrique, je suis désolé, c'est... l'Église n'est pas ça. On n'est pas en train de faire des œuvres sociales. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent se spécialiser dans le corps de Christ pour faire ça, mais c'est pas dans l'Église. C'est-à-dire dans la communauté. Nous allons réfléchir comment nous allons faire maintenant avec le social, avec l'humanitaire, pour être plus près de ce que Jésus veut, et non pas simplement ce qu'on nous demande, ce qu'on nous oblige un peu à faire. Il faut qu'on soit sage. Eh bien, la piété, aujourd'hui, dans l'Église, elle n'est plus simplement ce qu'elle devrait être, une adoration de tous les jours, dans la pensée, dans les actions, etc., c'est plus une prière, non. C'est devenu une agitation sociale. On dirait que c'est pour se rassurer le cœur qu'ils font toutes ces belles choses. L'âme sauvée du chrétien d'aujourd'hui a faim et a soif, et c'est totalement anormal, parce que Jésus a dit que celui qui vient à lui n'aura jamais faim et n'aura jamais soif. Et les gens sont assoiffés, ils veulent toujours plus de ceci, plus de cela, aussi bien dans le matériel que dans le spirituel. Ils veulent des émotions, plus. Je me rappelle de cette sœur, on était dans une église, je ne sais plus où, dans Normandie, et une sœur qui disait « Oh Seigneur, plus !» C'était horrible, on était gênés, on était sur l'estrade en train de faire ses manières. C'est affreux, n'importe quoi, une folie. L'âme, c'est l'être que nous sommes sur la terre. Eh bien, l'âme des chrétiens a faim et a soif. Ils sont affamés et ils sont assoiffés. C'est pas faute d'enseignement. Parce que longtemps, je me suis dit, les pauvres chrétiens reçoivent des enseignements peut-être un peu trop maigres. Alors, c'est vrai aussi qu'on leur rabâche souvent les mêmes choses. Mais c'est quand même pas la vérité totale. C'est pas faute d'enseignement que les chrétiens ont faim et soif. Les chrétiens sont déconnectés de la réalité spirituelle. Ils prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu parce qu'il y a quelque chose qui leur manque. Ils ont faim, ils ont soif, ils oublient d'apprendre et n'ont plus la capacité d'apprendre à laisser Dieu agir dans la moindre des choses. Ils ne font plus confiance. Ils croient que parce que ça semble bien, ben c'est bien. Ben non, c'est pas forcément bien. C'est pas parce que ça semble bien que c'est bien. Ils ont les sentiments que bien agir, c'est suffisant. Ben non, c'est pas suffisant. Il y a plein de païens qui font des bonnes choses et c'est pas suffisant aux yeux de Dieu. Eh ben c'est la même chose pour nous. C'est pas parce qu'on pense qu'une chose est bonne qu'elle est bonne. Et puis que Dieu doit l'accepter. Non, pas du tout. Ils ont tort. Et parfois, nous avons eu tort, nous aussi. Parce que ils ont faim et soif, ils sont affamés, alors il y a quelque chose qui joue plus dans le cerveau. Ce n'est plus
la vie, c'est-à-dire ce n'est plus Dieu qui les conduit, ce n'est plus l'inspiration de Dieu qui conduit leur pensée est versatile. Ils sont comme ivres, ils agissent bizarrement parce qu'ils ont faim. Je dirais qu'ils sont en hypoglycémie, près, très près du coma hypoglycémique. Parce qu'ils ne boivent pas le sang de Jésus et parce qu'ils ne mangent pas le corps de Christ. Le sang et le corps de Jésus sont vraiment la nourriture dont nous avons absolument besoin. Et nous en avons besoin et nous devons manger tous les jours. Et le sang de Jésus et le corps de Jésus, qui est une nourriture, une fois qu'on est nourri, alors on peut agir avec puissance, alors on peut agir intelligemment, alors on peut agir avec sagesse. Quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, il est dans une espèce de vague. Il y a quelque chose qui ne va pas. Autrement, s'ils ne mangent pas, ils agissent par la chair qui n'a pas les mêmes désirs que l'esprit. Ils sont dans le vague, ils sont en hypoglycémie. En Afrique, et puis venez pas me dire que ça fait 17 ans que je vais en Afrique, 2-3 fois par an, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui becquent, qui mangent, je parle plus de la Sainte-Seine là, je parle de la nourriture, qui ne mangent qu'une fois tous les 3 jours. Eh bien, ils sont affaiblis, on serait à moins, hein, ils sont affaiblis, ils se traînent, ils ne sont pas efficaces. Quand ils viennent ici, ils disent « Ah, alors vous les Blancs, oh, ouais, bah, attends, nous on bouffe, hein. Merci Seigneur, nous on bouffe. » Je regardais une vidéo hier, c'est un homme qui a réussi à faire reculer une grande partie du Sahel, vous savez comment ? Il s'est mis à faire des trous dans la terre, un peu partout, des trous comme ça. Il a rempli ces trous avec toutes sortes d'ordures, Et puis, il a eu, sans le savoir, l'aide des termites qui ont commencé à venir dans ces trous, pour voir ce qu'il y avait comme truc à bouffer, qui ont commencé à faire des galeries dans le sol. Ça a fait toutes sortes de tunnels dans le sol. Et quand la pluie est tombée, parce qu'elle finit toujours par tomber là-bas au Burkina, eh bien, ça a retenu l'eau, et tout ce que cet homme a planté, ça a poussé. Maintenant, il y a une forêt. Mais ça fait 40 ans qu'il a commencé. Et pendant à peu près 20 ans, les gens ont dit qu'il était fou parce qu'il n'observait pas la tradition. Voilà. Eh bien, c'est la même chose dans le christianisme. Les gens observent une tradition, et aussitôt que vous sortez un peu de la tradition, on vous taxe de fou, d'hérétique, de tout ce que vous voulez. Mais ce sont des gens qui mangent peu, donc ils n'ont pas cette possibilité, je suis désolé, hein, mais ils n'ont pas la possibilité que nous avons, nous, d'avoir cette vivacité d'esprit pour entreprendre, créer, faire. J'ai dit à certains, on était avec Philippe, il y en a un qui dit, mais c'est quoi que vous avez là au bord du toit? Je vois tous ces, au bord du toit, il y a tout, puis avec des tuyaux. J'ai dit, mais ça s'appelle un chenot. Il y en a qui disent chenot. Et quand l'eau tombe sur le toit, ça va dans le chenot, puis ensuite ça coule. Et puis ça va dans un réservoir. Et on perd pas l'eau de la pluie, elle est propre, elle est bonne et tout. Ah, vous les Blancs, j'ai dit, mais faut le faire chez vous. Ah oui. Ça fait quoi, 10 ans, Philippe, hein?
Plus, oui.
Plus, il n'y en a pas un qui l'a fait. Pas un! Ah, vous les Blancs. Ils sont affamés. Pas de chenaux. De nourriture normale, ils n'ont pas. Pourquoi? Parce que c'est un cercle vicieux. Et puis il y a la tradition qui vient se mêler là-dedans. C'est terrible. Ben, dans la religion, dans les choses de Dieu, c'est la même chose. Ici en France, on mange normalement 3 fois par jour, le petit déjeuner, le midi, puis le soir, puis entre-temps, on prend encore des petits casse-croûtes, hein, vers 10h, ou l'après-midi encore, et puis on grignote, voilà. Et puis, c'est un peu trop d'ailleurs. Ça, c'est pour ce qui concerne le corps. Notre corps est une des étoiles qui est dans la main droite de Dieu. Ici, on le nourrit trop et on le nourrit de plus en plus mal. C'est vrai. En plus, je connais des gens chrétiens qui, ici en France, en Suisse aussi, mais moi, qui ingurgitent de l'alcool. Mais comme c'est pas possible, boire un petit coup à table tout à l'heure, on va manger, c'est midi, c'est dimanche, on va manger, on va boire un petit verre de vin. Mais il y en a, c'est vous allez au restaurant, on est quatre, il faut qu'ils achètent deux, trois bouteilles. Bon, c'est infernal. Vous croyez pas que ça abîme quelque chose là-haut? C'est mauvais, plus mauvais que la viande. C'est pas bon. Tout ça, ça s'appelle des excès. Et notre corps, il est dans la main droite de Dieu. Comment voulez-vous qu'il agisse normalement quand il est imbibé comme ça d'alcool ou de fumée ou de je ne sais quoi, mais d'une mauvaise nourriture? Il y a une nourriture qui nourrit notre être entier, c'est le sang de Jésus. Et c'est la chair de Jésus. Alors, au début du christianisme, c'était quelque chose qui était tellement connu que les non-chrétiens disaient « Les chrétiens sont des vampires et des cannibales. » Ils se repaissent de sang et ils bouffent de la chair d'un homme. Parce qu'ils ne disaient pas « Ceci représente mon corps. » Ils disaient « C'est le corps de Christ. C'est le sang de Christ. » Et petit à petit, ils ont transformé, ils en sont venus à la transsubstantation. J'y crois pas à la transsubstantation. Mais si Jésus dit c'est mon corps et c'est mon sang, je crois ce qu'il dit moi. Je crois pas ce que les religions disent, mais je crois ce que Jésus dit. Jésus a dit, buvez, ceci est mon sang. Et les chrétiens pensent, je bois ce vin qui représente le sang de Christ. Pourquoi est-ce qu'ils déforment la parole de Jésus? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leur état normal, ils sont spirituellement en hypoglycémie, proche du coma. Je ne crois pas à la transsubstantation, pas du tout. Je ne crois pas que parce que le prêtre vient et que tout à coup le vin devient du sang de Christ, je ne crois pas ça comme ça. Mais si Jésus dit « ça c'est vraiment mon sang », je crois Jésus. Sans chercher à faire une doctrine avec ça. Amen. Et il en est fait selon ma foi. C'est tout. Je crois en Jésus. Lui, il dit, ceci est mon sang, ceci est mon corps. Il dit, c'est vraiment une nourriture. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie. Je ne cherche pas à comprendre avec une doctrine humaine. Je prends les mots que Jésus prononce. Je bois le sang et je mange le corps. Vous allez me dire c'est du vin, vous allez me dire c'est du pain, vous me dites ce que vous voulez, moi j'écoute ce que Jésus dit. Et j'agis sur la parole de Jésus-Christ. Je crois cela. Et j'ai plus faim, et j'ai plus soif, et j'ai la puissance qu'il me faut chaque jour, parce que chaque jour je prends le pain et le vin. Et je vous conseille à vous qui regardez cette vidéo ou qui écoutez cette prédication de faire la même chose. Les pauvres chrétiens n'ont plus conscience d'être dans la main droite de Dieu. Ils ont conscience de leur misérable petite existence d'ici-bas, exactement comme les païens ont conscience de leur misérable petite vie ici-bas. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? L'espérance du salut? Oui, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? Écoutez-les parler. Vous allez voir ce qu'ils ont de plus. Leur intelligence est obscurcie pour le plus grand bonheur de tous les escrocs qui leur prédisent des âneries qu'ils s'empressent de croire à la grande vitesse grand V. Ah ça les âneries! La dernière ânerie, c'est que Jésus va revenir chercher son épouse le 23 septembre. Celui qui annonce ça, ça fait déjà 4 fois qu'il se trompe de date. Mais il y a toujours plein de gens qui vont l'écouter. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez 400 ou 500 ou 1000 ou 10 000 personnes qui viennent vous écouter sur YouTube que forcément ce que vous dites, c'est la vérité. Il a dit que c'est le 23 septembre. Oui, mais il y a quelque temps, il avait dit que c'était le 15... Le Seigneur a retardé par amour. Ah bon? 3 fois déjà, ou 4 fois, je ne sais plus. Et l'autre? Il va y avoir un crash financier en fin 75. Il est où? Bon, ça va pas très bien. Ben oui, mais ça fait longtemps que ça va pas très bien. Il est où ce crash financier que tout le monde attendait, les chrétiens? Seigneur, ça va être dur. Oui, et puis on va nous mettre la puce. Oh, ça va être grave, mes pauvres enfants. Vous êtes déjà tous pucés avec votre carte bleue, votre carte vitale, votre carte d'espresso, toutes vos cartes, tout ce que vous savez. Votre carte Fnac payable en 10 fois. Vous êtes tous pucés déjà. Alors, j'en ai vu un ce matin qui disait, c'est mon ami Charlie, un frère, il m'a envoyé une vidéo. Alors, là, le nouveau truc, c'est maintenant, depuis les États-Unis, ils envoient des ondes pour que les gens deviennent fous. Ah bon? Ah, ça explique alors, on comprend. Et puis le type, il parle très sérieusement, on dirait un bonhomme, ça vaut aux informations. Bonjour monsieur Brochin, bien poudré, tout ça, bien raconter leurs histoires. D'autres disent que la Nouvelle Jérusalem, vous savez où elle est? À l'Angleterre. Très sérieusement. Ils aiment ces choses-là. Certaines âmes en hypoglycémie voient des orbes. Alors, vous savez, les orbes, quand vous prenez une photo avec un flash, vous avez des points brillants, des ronds, ils croient que c'est des esprits. Et il y en a qui vont plus loin, qui disent, moi je les vois sans avoir besoin d'appareil photo, je les vois. Oui, tu vas aller chez l'ophtalmo, puis il va te dire ce que c'est. Ça se soigne, on met des gouttes. Brelin, brelin, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ta, ta, yo, yo. Non, mais ça me fait peur, moi. Ça fait vraiment peur. D'autres vont filmer des fantômes dans les maisons des chrétiens. Ils aiment ça. Mais c'est pas ça que Jésus nous demande de faire. Ils aiment ça. Ah, regarde, regarde, je me suis fait gripper par un démon. Mais ce que je vous dis là, c'est cette semaine, hein. Alors là, là, il y a du monde qui va écouter. Ah, ça les intéresse, ça. Ça, oui. Mais c'est quand la dernière fois qu'ils ont prié pour un malade en imposant les mains? Et c'est quand la dernière fois qu'ils ont eu une guérison miraculeuse? Et c'est quand la dernière fois qu'ils ont emmené quelqu'un à Jésus? C'est ça que Jésus nous demande de faire. Non. Filmer les maisons hantées. Ah, voilà. D'autres roulent par terre dans le Saint-Esprit. Du temps de Sainte, je sais plus comment elle s'appelait, je me rappelle plus. C'était du temps de Saint Ignace de Loyola. Il y avait une autre sainte à l'époque. Elle avait rencontré un homme qui se roulait dans ses excréments pour la plus grande gloire de Dieu, parce qu'il voulait s'humilier devant le Seigneur. Oui, elle a toujours eu. Bon, il n'y avait pas Internet pour nous le raconter, mais il y a toujours eu. D'autres brûlent les photos de leurs enfants parce que ces photos, c'est des idoles. On ne doit pas avoir d'image. Enfin, leur intelligence est obscurcie. Leur étoile intelligence n'est plus qu'un lumignon qui fume. Heureusement, Dieu, dans son amour, va souffler pour ranimer un petit peu tout ça. J'espère. Et puis, que dire du reste? Leur cœur est partagé. Ils sont pleins de connaissances qui n'édifient pas. Ils connaissent des tas de choses. Ils regardent des tas de vidéos des complotistes sur YouTube. Alors ça, il y en a. Mais par contre, pour bouger leur derrière, pour aller louer le Seigneur le dimanche matin, ah ben non. Non. Leur mental inférieur est le seul qui brille encore dans la main droite de Dieu. C'est comme ça. Et c'est ce mental inférieur qui donne un peu de lumière à tout ce qu'ils sont. C'est pourquoi ça ne progresse pas, ça ne fait que régresser. Et même si les églises se remplissent de plus en plus, elles se remplissent de quoi? Les étoiles dans la main droite de Dieu, ils sont plutôt des astres errants, oui, dont nous parle la Bible. Cherchons toujours, ne trouvons jamais rien, sauf à critiquer, à condamner ce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont toute la capacité de réfléchir spirituellement. Mon Dieu, quelle époque! Le peuple de Dieu a faim et soif du sang et de la chair de Jésus-Christ. Ils sont affamés, ils sont assoiffés, ils sont sous-alimentés parce qu'ils ne prennent plus le pain et le vin. Ou une fois par semaine. Pire que les Noirs qui mangent qu'une fois tous les 3 jours. Une idée stupide et idiote leur vient dans la tête, hop, ça doit être le Saint-Esprit. Tout de suite. Sans aucun doute. Là, il n'y a pas de doute. Plus c'est bête, plus ils croient que c'est le Saint-Esprit. Et quand il y a un miracle qu'un aveugle voit, ils disent, ça ne serait pas le diable, ça. Mon Dieu. Des vierges folles qui errent comme une bande de zombies en nuisette. Voilà ce que c'est. C'est l'horreur. Mes frères et sœurs, on a bien fait. On a fait le bon choix en sortant de tout ça. On a fait le bon choix. On ne regrette pas. Soyons sobres, soyons sérieux. Faisons briller nos diverses capacités pour la seule gloire de Dieu. Ne dormons pas. Soyons éveillés. Ne rêvons pas des trucs invraisemblables. Ne faisons pas des cauchemars Jean Rinierski qui voit le mal partout. Occupons-nous à garder ce que Dieu nous a donné. Nous sommes des frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres, acceptons d'être repris, d'être corrigés s'il y a besoin, faisons le choix d'avoir de bonnes fréquentations et évitons les influences des toxiques, parce qu'il n'y a pas que des toxiques qu'on respire et des toxiques qu'on bouffe, il y a aussi des toxiques qui viennent à la maison pour nous intoxiquer. Faisons attention, voilà, juste un petit peu, mais pas trop, parce que vous savez, le serpent du venin, on peut aussi en faire un médicament, hein, mais il ne faut pas en prendre trop. D'accord ? Donc faisons attention, prenons garde, ne faisons pas aussi de tout un sujet d'inquiétude. Reposons-nous sur le Seigneur, attendons-nous à lui, remercions-le de nous avoir donné le courage de tout laisser tomber et de nous laisser guider par lui. Remercions-le pour ça. Ne promenons pas des regards inquiets. Nous ne sommes pas en vacances ici. Cet après-midi encore, nous allons faire 13 000 baptêmes. Gloire à Dieu. Avec Jésus, la vie est belle. Et on est occupé. Et on fait des choses importantes. La mort est vaincue au nom de Jésus. Déjà par notre foi, nous arrivons à faire des choses. Par notre foi, alors que les autres ont peur. Dieu nous délivre toujours du mal. Si le mal nous atteint, il nous en délivre toujours. Il nous a appris à même tirer profit des choses qui peuvent nous arriver et qui nous font du mal. Moi, je ne suis plus le même homme depuis que j'ai eu ce cancer. Maintenant, je relativise beaucoup plus. Je donne beaucoup moins d'importance aux gens toxiques, par exemple. Ça m'impressionne moins. La vie est trop courte pour perdre son temps à s'embêter avec tous ces détails. Hein, le mot de Le Pen, il ne faut pas dire le mot détail, il n'est pas bien, les maudits. Je suis désolé. Il faut s'occuper des choses qui sont importantes. Occupez-vous de ce que vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes là dans la main de Dieu. Et il y a 7 caractéristiques, 7 niveaux de conscience, et on va parler de ça dans les prochaines prédications, afin que nous soyons tous bénis et que nous puissions briller dans la main droite du Seigneur. Amen, amen. Merci Jésus de ce message un petit peu cinglant, mais dont je suis certain plusieurs ont besoin. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Amen.